Bonjour, chers amis téléspectateurs. C'est avec une très grande joie que ce matin, je viens vous apporter la parole de Dieu. Et je crois que cette parole peut transformer vos vies. Et je tiens à saluer tous mes amis de TV Christ qui sont actuellement connectés avec nous et qui passent un moment avec nous et qui sont connectés au travers le monde entier. Il y en a qui nous suivent au travers de onction.com, cette page net, à partir du Canada, de Colombie, du Pakistan, du monde entier. Et aussi, je tiens à saluer tous les téléspectateurs qui sont en métropole, qui nous suivent sur le Bouquet Free, canal 222. Le Bouquet Free, canal 222. Que Dieu bénisse aussi tous les téléspectateurs martiniquais qui nous suivent le lundi à partir du KMT. Cette émission est transmise tous les samedis par Canal 10 sur télésatellite et il est aussi retransmis par le câble au moyen du KMT tout le lundi à 17h. J'aimerais vous parler dans la suite de ce que nous avions déjà vu, la puissance de la confession, la puissance de la parole que vous confessez. Prenez conscience que toute parole que vous confessez prend vie. Je me rappelle de certains couples où chaque fois qu'il y a dispute, la femme dit « un jour on va se séparer ». Je connais un couple comme ça, lorsque l'homme et la femme se disputent, et quand le mari est fâché ou la femme est fâchée, il dit « de toute façon on va se séparer ». Et je vous dis, ce n'est pas étonnant, ce couple, au bout de quelques années, ils n'ont pas pu résoudre leurs problèmes. Ce qu'ils ont tant confessé est devenu réalité. Ils se sont séparés. Et vous savez que nous sommes entourés d'un monde spirituel. Il y a des anges de Dieu qui sont autour de nous. Il y a aussi des démons qui sont autour de nous. Les démons, ils utilisent toute parole que nous prononçons. C'est la raison même pour laquelle, lorsque Dieu appelle les gens, Dieu change même les noms des gens. Pourquoi? Le nom a une importance. Chaque fois que quelqu'un t'appelle avec ton nom, il est en train de créer quelque chose. Abraham s'appelait Abraham. Et quand Dieu a prophétisé sur Abraham, il lui a dit qu'il fera de lui une grande génération et que des nations sortiront une grande nation. Dieu a changé le nom d'Abraham en Abraham. Pourquoi? Parce que chaque personne qui allait appeler Abraham prophétisait automatiquement. Les noms ont un pouvoir sur la destinée des gens. Si vous regardez par exemple Barack Obama, quand vous regardez le sens que ce nom Barack Obama a, sûrement j'ai appris que Barack veut dire, je me trompe pas, mais la joie ou quelque chose, mais il y a aussi un sens de l'élection, élu. Et ça ne m'étonnerait pas que ce nom-là aussi, chaque fois que les gens l'ont appelé avec ce nom, quelque part ils étaient en train de bénir cet homme. Et voilà pourquoi même Sarah s'appelait Sarai. Mais lorsque Dieu l'a béni, il a dit il s'appellera Sarah, elle s'appellera Sarah. Et lorsque Dieu a béni aussi Jacob, le mot Jacob veut dire voleur, usurpateur. Mais lorsque Dieu a béni Jacob, il a changé son nom, il a dit Jacob, on t'appellera plus Jacob, mais on t'appellera Israël. Israël qui veut dire vainqueur. Et chaque fois que quelqu'un appelait Jacob Israël, ils étaient en train de le bénir, de confesser la victoire sur sa vie. Et vous comprenez pourquoi Dieu a même changé les noms des patriarches. Parce que Dieu lui-même, il sait l'importance des paroles, des mots et des noms. Tout ce que nous prononçons prend vie. Quand vous prononcez des paroles négatives, ça va prendre vie. Quand vous prononcez des paroles positives, ça va prendre vie. Prenez conscience que vous êtes un créateur. Jésus-Christ nous a créés à son image, n'est-ce pas? Dieu nous a créés à son image. Nous avons ses attributs. Il nous a donné ses attributs. Donc nous pouvons créer avec notre bouche. Voilà pourquoi c'est important que lorsque nous prions, que nos prières ne se contredisent pas avec nos paroles, que nos prières que nous faisons le matin ou le soir ne se contredisent pas avec ce que nous confessons. Par exemple, vous priez pour la conversion de votre enfant. Il faut commencer à parler conversion. Vous ne pouvez pas prier, Seigneur, je veux que mon fils change, que tu le convertisses, que tu l'enlèves de la drogue. Tu confesses ça, tu pries ça, et durant la journée, quand tu parles de ton fils, tu commences à dire le contraire. Mon fils, il est terrible. Cet enfant-là, il est insupportable. Cet enfant-là, il s'est un drogué, il ne changera pas. Cet enfant-là, il est maudit. Mais le matin et le soir, tu pries, Seigneur, change mon fils, libère mon fils. Et la journée, tu confesses le contraire. C'est comme ça que nous nous contredisons. Faites attention à ce que votre bouche confesse. Nous allons voir dans la Bible trois exemples, quatre exemples, avec des contre-exemples de gens qui ont confessé des paroles négatives et qui l'ont vécu. Et des gens qui ont confessé des paroles positives en accord avec la foi et qui ont pu expérimenter la victoire. Dans Proverbe 18, le verset 20 à 21, on l'a vu le samedi passé, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ça sert à rien de prier toute la journée, de louer, de prier toute la journée, de prier pour la victoire, de prier pour la victoire, de prier pour la victoire, pendant 40 jours même. Et quand vous êtes dans le champ de bataille, vous parlez échec. Ça ne sert à rien, vous êtes en train d'anéantir vos prières. Ça ne sert à rien de prier la victoire nuit et jour, et quand l'ennemi est en face de vous, vous confessez des paroles négatives. Nous allons voir dans Nombre chapitre 13, le verset 23 au verset 33. Je vais lire pour vous. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Moïse avait envoyé 12 espions. Quand ils sont arrivés devant Cana, ils ont envoyé 12 espions pour aller espionner le pays. Et ces 12 espions sont allés, ils ont espionné le pays et ils sont venus faire un rapport à Moïse. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Éthiens, les Yébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la source et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer, est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. » Voilà des gens qui confessent l'échec. Voilà des gens qui confessent la défaite. Et ils sont déjà vaincus avant de commencer une bataille. Les enfants d'Israël ont rarement rencontré d'échec, sauf en cas de péché. Ils ont battu, ils ont vu la main puissante de Dieu. Ils ont vu la manne tomber du ciel. Ils ont vu l'eau jaillir du désert. Ils ont vu des miracles, la mer rouge s'ouvrir en deux. Ils avaient toute forme de preuve pour croire à la puissance de Dieu. Ils savaient bien qu'il y avait un Dieu qui marchait avec eux. Ils savaient bien qu'il y avait un Dieu qui était avec eux. Alors ils ont remporté de victoires, ils ont battu de peuples entiers. C'était une armée invincible. Mais quand ils sont arrivés devant Cana, Moïse a commis une erreur. Parce que ici on dit que Moïse a envoyé des espions. Mais quand nous le voyons bien, dans Deutéronome chapitre 1, on dit que le peuple a demandé à Moïse d'envoyer des espions. Et Moïse a prié Dieu et Dieu l'a permis, Dieu l'a autorisé. Dieu a dit, fais comme le peuple veut, envoie les espions. Parce que lorsque vous avez la foi parfaite, vous n'avez pas besoin d'espionner quelqu'un ou d'espionner un pays pour l'attaquer. Vous savez, tout ce qui est fait dans la volonté permissive de Dieu, pas dans la volonté parfaite de Dieu, mais dans la volonté permissive de Dieu, le diable trouve toujours un moyen pour rentrer et pour s'infiltrer. Faites attention dans tout ce que vous faites. Faites tout dans la volonté parfaite de Dieu, en obéissant à la parole de Dieu. Soyez à cheval dans la parole de Dieu. Et quand le peuple est sorti, il est venu devant Moïse, ils ont donné un rapport négatif. Écoutez, ne fréquentez pas les gens négatifs. La foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Quand vous fréquentez les gens négatifs, ils vont vous communiquer leur négativité. Il y a des gens qui sont négatifs, tellement négatifs que quiconque les fréquente devient contaminé. La foi peut être contagieuse, mais la majorité était négative. Il y avait seulement Caleb et Josué qui croyaient en Dieu, qui avaient la foi en Dieu. Tous les restes des espions, les 10 qui sont restés comme espions, ils ont dit, oh là là, ils ont vu la taille des géants. Ces hommes sont grands. Vous savez, sur la terre, il y a deux sortes d'hommes. Il y a des hommes qui regardent à la taille de la difficulté, mais il y en a qui regardent à la taille de la solution. Un verre qui est à moitié rempli, un homme positif dira, ce verre est à moitié rempli. Celui qui est négatif dira, ce verre est à moitié vide. Mais c'est la même quantité d'eau, hein. Mais quelqu'un de négatif dira, ce verre est à moitié négatif. Il souligne, ce verre est à moitié vide. Il souligne le côté vide, le mot vide. Mais celui qui est positif, qui a la foi, dira, non, ce verre est à moitié rempli. Ce qui tue les chrétiens aujourd'hui, c'est la négativité. C'est une maladie grave. Et voilà comment ces espions ont fait un mauvais rapport. Ils ont contaminé tout le monde. Les gens avaient peur. Ils ont contaminé la peur, l'angoisse. Ils ont passé par décrire comment la difficulté est grande. Au lieu de voir combien Dieu est grand. Vous savez, les gens qui sont négatifs fixent leurs yeux dans leurs problèmes. Les gens qui sont négatifs passent leur temps à penser à leurs échecs. Les gens négatifs passent leur temps à penser à leurs échecs, à parler de leurs échecs. Même quand ils ont des victoires, ils oublient leurs victoires. Les gens négatifs parlent plus de leurs ennemis que de leurs amis. Ils peuvent avoir 3 bons amis qui sont positifs, qui les ont aidés, qui les ont aimés, mais ils sont tellement négatifs. Ils ont l'esprit de rejet, ils préfèrent parler de 2 personnes qui leur ont fait du mal. Ah, les gens ne sont pas bons, telle personne m'a fait ça, telle personne m'a fait ça, dans cette église, c'est pas bien, les gens n'ont pas d'amour, parce qu'ils sont négatifs. Le problème, c'est pas l'église, le problème, c'est pas les autres. Le problème, c'est eux-mêmes. Il y a la négativité en eux. Ils ont atteint la maladie de l'incrédulité, l'esprit de rejet qui rend les gens négatifs. J'aimerais vous dire, le président Washington avait tellement échoué. J'ai entendu son histoire avec le pasteur Alain qui m'a rencontré, l'évangéliste Jiménez. Il a posé candidature plusieurs fois à la présidence. La candidature pour les études, il a échoué. Candidature pour être sénateur, il a échoué. Il a échoué plus de 11 fois aux élections. Plus de 10 fois, 11 fois aux élections. Poser des candidatures, échoué. Mais il a persévéré. Il a échoué comme sénateur, il a échoué comme ceci. Il a posé toute forme de candidature dans sa vie politique. Il échouait toujours. Mais un jour, il a posé sa candidature pour la présidence des États-Unis d'Amérique. Et là, il a réussi. Voilà un homme positif. Un homme qui ne se laisse pas décourager par les échecs. Les échecs, parfois, peuvent nous rendre plus intelligents. Vous savez, tout dépend de la réaction que nous avons vis-à-vis de nos échecs. Les échecs peuvent vous rendre plus fort, comme les échecs peuvent vous détruire. Ça dépend comment vous réagissez. Ça dépend de votre attitude intérieure. Mais quand les échecs vous affectent et perturbent votre foi, vous devenez négatif. Vous devenez vous-même un échec. Et Moïse a dit à ces gens, n'allez plus à la guerre. Moïse a dit, Dieu vous châtie. Vous allez faire 40 ans de désert, dans le désert. 40 ans d'errance dans le désert. Un an pour un jour. Mais ces gens ont dit, non, nous allons aller faire la guerre. Nous allons nous répandre. Moïse a dit, n'allez pas, parce que vous avez déjà semé la défaite. Vous avez déjà confessé la défaite, n'allez pas, vous serez battus. Moïse les a conseillés parce que, vous savez, tout ce que vous prononcez est une semence qui prend vie. Voilà pourquoi Jésus-Christ s'est dit, l'homme rendra compte de toute parole qu'il aura proférée. L'homme rendra compte de toute parole, parce que tout ce que vous dites prend vie. Quand vous prononcez une malédiction, elle prend vie. Vous pouvez vous repentir, mais vous avez déjà sémé quelque chose. Et les démons en profitent pour utiliser cela. Comme aussi le Saint-Esprit peut saisir votre parole pour manifester sa gloire. Ne vous exprimez pas légèrement de vos lèvres. Faites attention avec votre bouche. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Moïse leur a dit, vous avez déjà semé l'échec, n'allez pas vous battre. Ils n'ont voulu rien comprendre, parce qu'ils étaient sûrs d'eux. Ils sont allés se battre, on les a battus, et beaucoup sont morts, ils ont pris la fuite, il y a eu un deuil terrible parmi le peuple. Et vous comprenez parfois pourquoi certains chrétiens sont battus. Ils sont battus. Non, parce que Dieu n'est pas fidèle. Ils sont bâtis non parce qu'ils n'ont pas assez prié. Ils sont bâtis non parce qu'ils ne sont pas sérieux. Ils sont battus parce qu'au milieu de la bataille, ils ont confessé des choses négatives. Ils ont confessé la malédiction. Ils ont confessé la difficulté. Ils ont plus regardé à la difficulté au lieu de regarder vers la montagne. D'où vient le salut? Le salut vient de l'Éternel. Et c'est quel Dieu? C'est le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Pourquoi? Comme il a créé le ciel et la terre, il peut tout, il est capable, il est tout puissant. Il n'a pas dit c'est le Dieu qui a chassé Adam et Ève du jardin. Non, il n'a pas regardé les choses négatives. Il a regardé la toute puissance de Dieu. Ne pensez pas souvent aux difficultés. Refusez de penser aux difficultés. Refusez de raisonner sur les difficultés. Rappelez-vous simplement des promesses de Dieu. Rappelez-vous simplement des victoires de Dieu. Et voilà comment le peuple d'Israël a été battu à Canaan, battu complètement, parce qu'ils ont confessé des paroles négatives. Nous allons voir maintenant dans la Bible un homme qui a confessé une parole positive. Un homme qui a saisi les promesses de Dieu et qui a avancé, qui a gagné la bataille. Nous allons voir l'histoire de David et Goliath dans 1 Samuel chapitre 17. On va lire dans 1 Samuel chapitre 13. 1 Samuel chapitre 13, le verset 40 à 47. On On va voir comment une armée a été paralysée par la peur. L'armée d'Israël était négative. Vous savez, le diable est un grand impressionniste. Ne fixez pas vos regards sur vos échecs. Quand vous passez votre temps à penser toujours à vos échecs, votre foi deviendra paralysée et votre foi risque de mourir. Mais quand vous passez votre temps à vous rappeler de vos victoires, vous êtes en train de renforcer votre foi. Parlez souvent de vos victoires, parlez souvent de vos réussites, parlez souvent des bonnes choses et oubliez les choses négatives. Que votre bouche ne prononce pas des choses négatives. Vous pouvez vous intoxiquer avec vos propres paroles. C'est comme quelqu'un qui mange une viande ou qui mange un poisson, qui a un poison. Il s'intoxique lui-même en mangeant une nourriture qui n'est pas saine. Et parfois, nous les chrétiens, nous nous intoxiquons nous-mêmes. On va lire 1 Samuel chapitre 17, le verset 40 au verset 47. Il prit à main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies. 5, c'est le chiffre de la grâce. 5 pierres polies, chaque pierre symbolise la parole de Dieu, la promesse de Dieu. Et les mit dans sa gibecière de bergère et dans sa poche. Puis, sa fronte à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David. Et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda. Et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond d'une belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit au Philistin, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. Ouh! Ça, c'est un combat spirituel. Il y a la bataille qui se passe dans le domaine spirituel, et il y a la bataille sur terre. Dieu a son champion David qui l'envoie. Satan aussi a Goliath, son champion qui est grand, qui est costaud, qui avance. Et Goliath a commencé à maudire, à lancer des paroles négatives. Goliath a voulu semer la peur. Goliath a voulu semer des pensées négatives sur David. Et vous voyez, avant même que la bataille commence, avant même que la bataille commence, le sort de la bataille a été déjà scellé par les paroles de David. Ce n'est pas au combat que David avait gagné Goliath. Ce n'est pas au combat que David avait vaincu Goliath. C'est avec la bouche. Ce n'est pas avec sa lance, mais avec sa bouche. David, avant même d'affronter Goliath, il a commencé par proclamer des paroles de victoire. Il a commencé par prophétiser la victoire. Il a commencé par élever le nom de l'Éternel. Il a commencé par humilier le diable. Il a commencé par ridiculiser le diable. Mes amis, apprenons à confesser la parole de Dieu. Apprenons à nous saisir des promesses de Dieu. Nous avons un Dieu grand. Nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu terrible. Nous avons un Dieu qui est capable. Voilà David qui avance. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée. Mais c'est pas l'épée qui m'impressionne. Avec la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, comme les païens disent, on ne vend pas la peau de l'ours sans l'avoir tué. Mais ici, David est en train de vendre la peau de l'ours par la foi. Il n'a pas encore tué l'ours, mais il vend déjà sa peau par la foi. Il déclare, aujourd'hui, l'Éternel te livre entre mes mains. Je t'abattrai et je couperai la tête, ta tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp de Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Aujourd'hui, je t'abattrai. Avant même de l'abattre, il a confessé qu'il abattrait. Et quand il a confessé cette parole, l'onction qui était sur lui a saisi cette parole. Quand il a confessé cette parole, l'onction était sur lui et descendue sur sa pierre. L'onction a enveloppé la pierre. Et quand David a lancé la pierre, écoutez, David pouvait être maladroit. David pouvait être mauvais. Mais quand il a lancé la pierre, l'onction était sur cette pierre-là, une pierre polie. Et l'onction elle-même a dirigé la pierre sur le seul endroit où la pierre pouvait entrer. Parce que Goliath avait un casque. La pierre est rentrée au milieu de la tête de Goliath. Et Goliath était mort. Mes frères et sœurs, quand vous êtes devant la tentation, quand vous êtes dans les difficultés, quand vous êtes dans le champ de la bataille, ce n'est plus le temps de prier ou de pleurer. On prie avant la bataille. Avant la tempête, Jésus avait veillé toute la nuit. Il y a un temps pour livrer la bataille et proclamer la parole de Dieu. Il y a un temps pour adorer et prier. Nous inversons le tout. Jésus, la nuit, il avait prié toute la nuit. Et le matin, la tempête est venue. Il n'a plus prié. Il a parlé à la tempête. Il a parlé à la tempête. Il a manifesté sa foi. Mais nous, des fois, quand la bataille arrive, c'est ce moment-là que nous commençons à prier parce que nous n'avions pas prié avant la bataille. C'est très important de savoir faire chaque chose au temps convenable. Ici, David, devant la bataille, il a déclaré la parole de Dieu. Il a manifesté sa foi. Et les anges qui étaient autour ont compris dans quel sens ils allaient combattre. Vous savez, quand nous confessons la parole de Dieu, nous donnons aux anges la précision. Et c'est important que vous soyez précis dans votre confession. Rappelez-vous dans Ézéchiel. Dans Ézéchiel, d'abord, Ézéchiel a dit que les os revivent, que la chair pousse sur ses os. Ce qu'il a dit, Dieu l'a exécuté. Mais l'Esprit de Dieu n'avait pas donné vie à ce corps qui était créé. L'Esprit de Dieu attendait que Ézéchiel soit précis. Et après, Dieu a dit à Ézéchiel, Ézéchiel dit à l'Esprit, souffle. Et quand Ézéchiel a dit à l'Esprit, souffle, le Saint-Esprit a soufflé et ces êtres qui étaient créés par la puissance de Dieu sont devenus une armée vivante. Vous savez, parfois nous ne sommes pas précis quand nous prions. Nous ne sommes pas précis quand nous proclamons la parole de Dieu. Apprenons à proclamer la parole de Dieu, mes amis. Apprenons à parler positivement. Prends conscience que la mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Prends conscience que tu n'es pas n'importe qui. Prends conscience que ton avenir est dans ta bouche. Écoute-moi. Ton avenir est dans ta bouche. Ta destinée, Dieu a tracé une destinée pour toi. Mais tu pourras entrer dans cette destinée seulement si tu apprends à confesser la parole de Dieu et à manifester ta foi. Nous allons voir une histoire. Comment quelqu'un a compliqué sa vie. Dans Genèse 31, comment quelqu'un avec une parole négative a lui-même détruit sa vie. Mais mes frères, des fois, on dit, ah, on m'a fait la sorcellerie. Mais je ne comprends pas comment des chrétiens peuvent croire que les sorciers sont aussi puissants. Les sorciers ne sont pas puissants. Qui va te faire la sorcellerie? On peut te faire la sorcellerie, mais si tu gardes ta bouche, la sorcellerie ne pourra pas t'atteindre. Parfois, la sorcellerie nous atteint parce que notre propre bouche nous-mêmes, elle-même, ouvre la porte aux sorciers. Regardez quand Jacob, suivez bien, quand Jacob a fui chez Laban, Jacob était 14 ans esclave chez Laban. Et une fois qu'il a pris sa femme, Rachel et Léa, et qu'il a vu que son beau-père Laban était un voleur, qui n'était pas honnête avec lui, sans rien dire à Laban, il prend sa femme et ses enfants et son troupeau, ses serviteurs, il prend la fuite. Et il ne savait pas que sa femme préférée, la femme qu'il aimait le plus, la plus jolie, Rachel, avait volé les dieux de son père. Elle a volé sur les dieux de son père. Et Laban a vu que ce dieu était disparu. Il a poursuivi Jacob. Et quand il arrive à la rencontre de Jacob, regardez quelle erreur Jacob a fait. Elle a prononcé des paroles fatales qui lui ont coûté la vie de sa femme. Genèse chapitre 31, le verset 32. Alors Jacob dit à son beau-père, « Mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. » Donc qu'il périsse, que la mort soit dans la personne qui a volé tes dieux. En présence de nos frères, examine ce qui t'appartient chez moi et prends-le. Jacob ne savait pas que Rachel les eut dérobés. Ouh! Jacob ne savait pas que Rachel avait volé. Laban entra dans la tente de Jacob, dans la tente de Léa, dans la tente des deux servantes. Il ne trouva rien. Il sortit de la tente de Léa et entra dans la tente de Rachel. Rachel avait pris les téraphins, les avait mis sous les bas du chameau et s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente et ne trouva rien. Elle dit à son père, « Que mon Seigneur ne se fâche point, si je ne puis me lever devant toi, car je sais qui est ordinaire aux femmes. » Là, il parle de la menstruation. Il chercha et ne trouva point les téraphins. Jacob s'irrita et querella Laban. Il prit la parole et lui dit, « Quel est mon crime? Quel est mon péché que tu me poursuives avec tant d'ardeur ?» Mais le plus important, c'est le verset 32. Mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. Jacob a prononcé la mort. Faites attention aux paroles que vous prononcez, que cela soit sous la colère. Les démons, les puissances des ténèbres vont en profiter. Et vous savez, les démons ne peuvent rien faire sans vos paroles. Le monde, ce qui met une relation entre le monde spirituel et le monde matériel, c'est les paroles. Les paroles, c'est la subsistance, c'est la substance, c'est la matière qui met la connexion entre le monde spirituel et le monde matériel. Voilà pourquoi, pour que Dieu crée les choses matérielles, il fallait qu'il parle. L'Esprit de Dieu était là, mais ne pouvait pas intervenir. Mais quand Dieu a parlé, l'Esprit de Dieu a créé les choses matérielles. Même un esprit de mort, même les démons, quand ils veulent vous attaquer, ils ne peuvent pas le faire sans qu'il y ait des paroles d'un sorcier ou des paroles de quelqu'un de ta famille ou vos propres paroles qui puissent leur donner accès dans votre vie. Faites attention aux paroles que vous prononcez. Et elles peuvent détruire votre vie, elles peuvent ruiner votre ministère, comme elles peuvent vous élever au-dessus, 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 au-dessus et plus haut. Et nous allons voir dans Genèse, le chapitre 35, comment mourit Rachel. Rachel n'était pas morte sur place, mais là où étaient cachées les idoles, c'est là où la mort s'est cachée aussi. Ouh! Là où était caché, vous savez, là où vous cachez votre péché, c'est là où les démons aussi vont rentrer. J'ai étudié bien ce sujet dans la Bible. Je me suis rendu compte que certaines maladies vont avec certains péchés. Par exemple, les péchés sexuels, ils marchent de pair avec les cancers de prostate, de l'utérus. Certaines maladies vont avec certains péchés, je vous l'ai dit. Et là où vous cachez le péché, c'est là où vous cachez aussi la maladie. C'est là. Cacher un péché, c'est cacher un démon. Et nous voyons dans Genèse 35, le verset 16 à 17, ils partirent de Bethel. Et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata, lorsque Rachel accoucha. Elle eut un accouchement pénible. Et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit, ne crains point car tu as encore un fils. Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni. Mais le père l'appela Benjamin. Rachel mourut et fut enterrée sur le chemin d'Ephrata qui est Bethléem. La parole de Jacob s'est accomplie. Avant d'arriver à sa destination, celui qui avait caché les idoles de Laban est mort. Il n'est pas arrivé à sa destination, il est mort. Je crois que si Jacob savait que sa jolie femme, sa charmante épouse, sa gentille belle, oh j'imagine Rachel comme elle était belle, pour que Jacob travaille 14 ans pour cette femme, elle devait être belle. Mais la beauté ne va pas de pair avec la sagesse. Beaucoup de femmes belles se focalisent sur leur apparence physique et cultivent et entretiennent plus leur apparence physique et ils prennent leur beauté comme tout leur atout. Ils oublient de cultiver l'intérieur. Vous allez faire des constats. Beaucoup de femmes belles vont pas loin dans des études. Je dis pas tous, mais beaucoup vont pas loin dans leurs études. Beaucoup de femmes belles sont pas toujours intelligentes. Pas toutes, hein, mais beaucoup. Parce qu'elles croient que l'apparence, la beauté est suffisante. Ils s'appuient sur leur apparence. Ils oublient d'utiliser ce qui est le mieux et ce qui est éternel et inaltérable, la beauté intérieure. Oh, pauvre Rachel est morte. Et Dieu a voulu nous montrer par là la puissance. Et Jacob avait compris l'importance des mots. Lorsque Rachel a donné à son enfant le nom de Ben-Oni, Jacob n'a pas accepté ça. Il a changé. Jacob avait compris les leçons. Il a dit, mais non, on va l'appeler Benjamin. Pas Ben-Oni, Benjamin. Parce que les patriarches savaient ce que c'est que la puissance de toute parole que nous confessons. Nous allons voir encore une autre personne encore. En rapport avec Jacob, qui s'était fait maudire lui-même. Genèse 27, verset 13. Oh, mes frères, faites attention avec les paroles que vous prononcez. J'aimerais que vous puissiez comprendre ça. Faites attention, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Les sorciers ne sont pas puissants. Parfois, c'est nous-mêmes qui donnons aux sorciers les mots, l'autorité, la puissance de détruire nos enfants. Regardez ici, Genèse chapitre 27, le verset 13. Lorsque la maman de Jacob avait demandé à Jacob de voler la bénédiction d'Ésaü. Et Jacob a eu peur. Jacob a dit, mais si mon père découvre cela, se rend compte que je suis en train de mentir, il va me maudire, maman. Et qu'est-ce que sa mère va dire? Sa mère lui dit, que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. Que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Il y avait une malédiction. Et vous savez, pour qu'une malédiction prenne vie, il fallait qu'un homme prononce des paroles. Vous comprenez? Il peut y avoir une malédiction dans une famille. Mais cette malédiction va tomber sur la personne qui va prononcer des paroles qui vont permettre à cette substance spirituelle de devenir matérielle. Et il fallait que quelqu'un prononce. Or, l'acte même de Jacob, le mensonge de Jacob, mais il créait une, générait une malédiction. Le mensonge de Jacob générait une malédiction. Vous comprenez? Donc la malédiction existait déjà. Même quand quelqu'un pêche. Quand quelqu'un pêche, tout péché crée une malédiction. Tout péché est accompagné d'une malédiction. Le jour où tu pécheras, tu mourras. Et il y a la mort subite, il y a la mort lente. La mort lente, d'abord quelqu'un est infecté, il est malade, la maladie se développe, et la personne a attrapé le microbe aujourd'hui, mais peut mourir 3 ans après. Donc chaque péché génère une malédiction. Quand il n'est pas confessé, c'est pour cela que quand vous confessez un péché, vous avez intérêt à briser aussi la malédiction du péché. Au nom de Jésus. Alors, l'acte de Jacob générait en lui-même une malédiction. Mais son père ne pouvait pas le maudire. Parce que son père l'avait béni avant d'avoir compris que c'était un mensonge. Son père aurait pu le maudire avant de l'avoir béni. Mais une fois que son père l'avait béni, donc Dieu l'avait béni, son père n'avait plus le pouvoir de le maudire, parce que personne ne peut maudire ce que Dieu bénit. C'est la raison même pour laquelle Noé n'a pas maudit son fils, mais il a maudit le petit-fils. Pourquoi? Parce que le fils s'était moqué de lui quand il était ivre et nu, mais il s'est rappelé que ses fils ont été bénis par Dieu après le déluge et qu'il ne pouvait pas maudire celui que Dieu a béni. Alors, il a mis la malédiction sur le petit-fils. Vous comprenez la Bible maintenant, le mystère de la parole de Dieu. Nous sommes en train d'entrer dans la profondeur de la parole de Dieu là. Et voilà. Donc, Jacob pouvait pas être maudit parce qu'il avait déjà été béni. Et Isaac était pris au piège. Et la malédiction était là. Mais il devait tomber quelque part. Malheureusement, Rebecca, dans sa précipitation, elle a dit que la malédiction retombe sur moi. Cette parole-là a permis à la malédiction de retomber sur Rachel, sur Rebecca. Et je vous dis, depuis lors, on ne parle plus de Rebecca. Rebecca n'a plus jamais revu son fils. Rebecca n'a plus jamais vu, ni revu, ni rencontré son fils. C'était sa malédiction, c'était fini pour lui. La Bible n'en parle plus. Faites attention à toute parole que vous prononcez. Des fois, nous nous condamnons nous-mêmes. Des fois, nous détruisons nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui détruisons ce que Dieu veut faire dans nos vies. Parce que nous ne craignons pas Dieu. Parce que nous manquons d'intelligence, nous prions nuit et jour, mais avec notre propre bouche, nous sommes en train de détruire nos prières. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue.